pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. À chaque âge de la vie, jeunes filles et femmes peuvent se poser de nouvelles questions au sujet de leur corps, de son fonctionnement, de ressentis ou même d'impressions qui nécessitent des explications. S'informer, se comprendre, se rassurer parfois. Puberté, première règle, hygiène intime, douleurs persistantes, cycles irréguliers et doutes parfois avant de concevoir un enfant. Chacune peut s'interroger sur sa santé. Certaines transformations du corps nécessitent des éclairages que l'on n'arrive pas toujours à trouver, car parfois on ne sait pas à qui s'adresser ou l'on n'ose pas tout simplement demander. Mais ce n'est pas parce qu'une question touche à l'intime qu'elle ne doit pas être exprimée, et ce n'est pas parce qu'un problème est simple qu'il ne mérite pas de réponse. Les gynécologues sont là pour apaiser les craintes, éclairer, soulager et bien sûr soigner, car de trop nombreuses douleurs au féminin sont encore laissées en suspens, sans solution et sont vécues comme autant de fatalités. Car de trop nombreuses fausses croyances et mauvaises pratiques nuisent davantage à la santé des femmes qu'elles ne contribuent à leur réel bien-être. Décrire les symptômes, parler de l'intimité sans tabou pour trouver des réponses simples et efficaces. Et notre numéro pour poser toutes vos questions, 33 84 22 75 75. Des questions que vous pouvez aussi poser sur la page Facebook de Priorité Santé. Pour y répondre avec nous en studio, docteur Christian Jamin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, endocrinologue à Paris. Et on va retrouver tout à l'heure en ligne de Côte d'Ivoire le docteur Germaine Moquet, gynécologue obstétricienne au centre de santé urbain Riviera-Palmeraie dans le quartier de Cocodia, Abidjan. Et puis en fin d'émission, nous parlerons de l'ouverture par Médecins Sans Frontières d'un hôpital spécialisé en traumatologie à Tabar en Haïti, alors que le pays en pleine crise économique et sociale est confronté à une vague de violence d'une extrême gravité. On va retrouver Jean-Fabrice Pietri, coordinateur du projet pour MSF en Haïti.
Priorité santé sur RFI.
Alors à chaque fois qu'on propose dans Priorité Santé, hein, docteur Christian Jamin, une de ces émissions spéciales questions gynéco, on a toujours beaucoup de messages, beaucoup de questions sur le cycle menstruel. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi en consultation, ce besoin d'informations sur la régularité, même parfois tout simplement sur la nature des règles ?
Alors, d'abord, depuis la nuit des temps, ça a toujours été un mystère de comprendre pourquoi les femmes avaient du sang qui apparaissait régulièrement. Et en fait, maintenant, c'est assez simple à comprendre, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'immense majorité des femmes, et je ne parle pas des hommes, ne comprennent pas ce phénomène naturel. Et par ailleurs, quand on utilise maintenant certains types de contraception, on n'a plus de règles. Et donc, il y a dans la tête des femmes et des interrogations sur le fait, est-ce que c'est mauvais pour ma santé, le fait d'arrêter les règles ? Est-ce que les règles sont nécessaires pour être en bonne santé, pour avoir des enfants, etc. Oui, c'est des questions et il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements à faire.
Alors, ça veut dire qu'on a encore parfois un petit peu du mal à en parler, voire carrément du mal à en parler.
Oui, oui. Alors, même moi, si je suis gynécologue. Alors, chez moi, c'est un peu biaisé parce que quand elles viennent pour ça. Donc,
s'il y a un endroit où on en parle à peu près librement, c'est bien là.
C'est bien là. Donc, elles en parlent, mais je comprends, je vois bien qu'elles ne savent pas exactement à quoi correspondent les règles. Alors, si vous me laissez une minute, je vais expliquer.
C'est toujours
ce
bien
que sont
de recommencer par les bases.
Les règles, c'est que tous les mois, à l'intérieur de l'utérus, il y a un petit tissu, une petite peau qui pousse pour faire un petit matelas qui se remplit de sucre pour accueillir un œuf fécondé. Et tous les mois, quand il n'y a pas eu de fécondation, eh bien, on a un système de nettoyage interne qu'on pourrait qualifier de karcher interne, mais qui est fait avec du sang, puisque c'est ce dont on dispose dans l'organisme. Et ce sang décolle cette petite peau pour l'éliminer et pour en préparer une autre. Et les règles, c'est ça. C'est-à-dire que c'est nettoyer l'intérieur de l'utérus pour que tous les mois, il y ait un nouveau matelas neuf pour accueillir un œuf fécondé. Et alors, donc, ça veut dire que les règles sont nécessaires si on veut être enceinte. Mais si par une contraception, par exemple, on empêche ce petit matelas de se développer, les règles ne servent plus à rien. Donc, les règles ne sont, c'est un bon témoin de la fertilité, mais totalement inutile si on prend quelque chose justement pour bloquer la fertilité.
Alors, c'est la physiologie, en aucun cas, bien sûr, on l'a compris en vous écoutant, c'est une maladie. Et justement, sur ce corps, cet inconnu, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes connaissent bien leur corps, cette anatomie, son fonctionnement, où il y a encore énormément de tabous ?
Beaucoup de tabous et puis beaucoup d'ignorance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Je me souviens d'avoir fait réviser le baccalauréat de ma fille sur un sujet, sur par exemple la régulation du sucre chez les individus, et j'ai bien vu qu'elle avait rien compris. Et donc, effectivement, ça n'est pas que le tabou. C'est que souvent, c'est mal expliqué, c'est mal compris, et donc il y a un gros devoir de pédagogie là comme ailleurs, mais c'est pas forcément lié au tabou.
Pas forcément lié au tabou. Autre question, on a dit beaucoup de questions sur les règles, sur les douleurs gynécologiques, docteur Christian Jamin par exemple, toutes ces femmes qui se demandent, moi tous les mois je souffre, ma mère souffrait autant et on m'a dit que c'était normal. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors, je leur réponds, je suis un peu gêné pour répondre à cette question parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, on est en pleine redécouverte des douleurs, des règles des femmes. Pendant longtemps, on a dit que c'était une histoire de prostaglandine qui faisait que il y avait des contractions au niveau de l'utérus. Et maintenant, on découvre de plus en plus une maladie qui n'est pas forcément une maladie d'ailleurs, qui s'appelle l'endométriose. C'est-à-dire que la petite peau dont je parlais tout à l'heure, on en trouve ailleurs que dans l'utérus. Et on en trouve, pour peu qu'on ait des examens très précis, on en trouve énormément. C'est-à-dire, on finit par se demander si c'est pas quasi normal d'avoir un petit peu d'endomètre en dehors de l'utérus. Et donc, on peut comprendre que quand on saigne, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, et on ne saigne pas forcément à l'extérieur, on peut saigner à l'intérieur et ça peut faire mal parce que ça crée de l'inflammation dans le ventre. Alors, j'allais dire, ça c'est quasi physiologique. Il ne faut pas souffrir trop et on peut donner ce qu'il faut. Et puis, il y a des formes où ça devient carrément pathologique, c'est-à-dire que ça abîme les organes génitaux et là, il faut traiter.
Et justement, tout de suite, il va y avoir toutes ces autres questions des auditrices. On leur donne tout de suite la parole, docteur Christian Jamin. Une première auditrice qui est en ligne de Côte d'Ivoire, d'Abidjan précisément, c'est Samia qui est avec nous. Bonjour Samia.
Oui, bonjour docteur.
Le docteur Christian Jamin est à votre écoute, allez-y.
Oui, en fait, comme hier, il y avait posé des questions là, liées à l'infection en général. En fait.
Samia, excusez-moi, vous êtes très lointaine, la voix, on n'entend quasiment rien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil pour voir si on vous entend mieux ? Essayez un coup encore, une fois.
Allô ?
Oui, c'est mieux. Alors, expliquez-nous précisément votre cas en parlant doucement, parce que la ligne n'est pas très bonne. Allez-y.
Ok. En fait, je disais que il y a eu une infection il y a de cela un an. Donc, j'ai consulté un gynéco qui m'a prescrit des médicaments. J'ai suivi le traitement. Après le traitement, c'est le même problème qui sont revenus encore. Donc, après ça, j'ai commencé à avoir les règles douloureuses. Chaque fois que mes règles viennent, je ne sais plus rien faire. Donc, je reste couché à la maison, tout ça. Donc, j'appelle pour savoir si c'est lié, en fait, aux infections vaginales.
Alors, je vais résumer, hein, parce qu'on n'a pas très, très bien entendu, mais j'ai quand même compris l'essentiel. Vous avez eu, il y a un an, des infections vaginales. Vous avez été traité pour ces infections, mais c'est revenu. Et depuis, ce que vous avez constaté, c'est qu'à chaque fois, au moment de vos règles, eh bien, vous avez des douleurs. Et vous souhaitez donc savoir s'il y a un lien entre ces douleurs et ces infections répétées. J'ai juste une petite question, Samia. Vous nous dites, on vous a donné un traitement, vous aviez une infection. Est-ce que vous connaissez le nom de ce traitement ? Et est-ce qu'on a mis un nom sur votre infection ? C'était quoi cette maladie précisément ?
Non, en fait, quand je me suis rendue à l'hôpital, la femme m'a donné une ordonnance. Si l'ordonnance, il y avait... Comment on appelle ?
C'était des antibiotiques ? C'était sous forme d'ovules ? C'était quoi ?
Il y avait des antibiotiques, il y avait des ovules et il y avait prophénide en suppos.
On suppose. Donc, tout de suite, il y a le docteur Christian Jamin qui a identifié à peu près ce que vous dites, mais c'est pas facile quand on n'a pas le nom ni de l'infection précise, ni du médicament.
Alors, je voudrais dire qu'il y a souvent un abus de langage. Il y a les infections qui sont sérieuses et qui sont liées à des germes qui sont pas si nombreux. Hein. C'est le gonocoque et le chlamydia, et puis il y en a un petit nouveau qui vient de sortir. Ce sont des infections qui nécessitent des traitements vigoureux avec des antibiotiques. Et puis, il y a ce qu'on appelle les déséquilibres de la flore. Ça, c'est pas des infections graves, mais désagréables, qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, à l'intérieur du vagin, il y a des germes qui sont à leur place, et quand il y a un déséquilibre, c'est d'autres germes qui prennent leur place et qui peuvent donner des écoulements, des odeurs, etc.
Quand on a une mycose, ça entre dans quelle classification ?
Deuxième classe. D'accord. La mycose n'est pas une maladie contagieuse, c'est un déséquilibre naturel qui fait que les champignons se développent parce que les germes qu'on appelle les lactobacilles sont devenus minoritaires. Et puis il y a ce qu'on appelle les vaginoses, avec un germe qui a un très joli nom mais qui est pas très agréable, qui s'appelle le Gardnerella. C'est des germes, ce qu'on appelle anaérobie, c'est encore un déséquilibre de la flore, et donc ça, c'est assez compliqué à traiter parce que finalement c'est quasiment un phénomène naturel de changement de ce qu'on appelle maintenant avec un nom savant qui s'appelle le biotope. Et donc ça, quand on les traite, malheureusement, ça a tendance à revenir en permanence.
Et le lien avec les douleurs, cette question que pose Samia.
Si réellement, ou c'est indépendant, où il y a un vrai lien avec les douleurs, et là, on a affaire à la première catégorie, c'est-à-dire que une femme qui a des douleurs qu'elle n'avait pas avant ou qui a des saignements qu'elle n'avait pas avant, ça peut être une infection, et une infection grave qui peut être soit du gonocoque, soit du chlamydia. Et là, il faut...
Il faut retourner consulter. Samia, vous pouvez aller voir un gynécologue justement pour exposer ces différents symptômes afin d'être prise en charge ?
Ok.
C'est préférable, surtout si vous avez des douleurs et des inquiétudes. C'est vraiment préférable d'aller consulter. Hein. On vous souhaite une excellente journée à Abidjan. On va partir pour Douala, le Cameroun, avec Corinne en ligne avec nous. Bonjour Corinne.
Bonjour, très peu santé, merci.
Le docteur Jamin est à votre écoute, allez-y.
Alors mon problème c'est en deux phases. La première phase est avant mon accouchement. Mm-hmm. Donc je pouvais rester 2 mois sans saigner. Où je pouvais saigner 2 fois pendant 1 mois et mes règles étaient tellement irrégulières. Mm-hmm. Donc j'avais consulté, on m'a prescrit, je crois que c'est la progestérone, hein. Mm-hmm. Mais il y a un médecin qui avait évoqué vaguement le syndrome des ovaires polykystiques. Donc il n'a pas cherché à aller plus loin, moi aussi. Maintenant, après mon accouchement, c'est moins, en fait, ça a un peu amélioré. Ça peut sauter 1 mois, mais c'est pas comme avant mon accouchement. Là, ça reprend encore le cours normal. Mais je m'inquiète toujours parce que je ne sais pas si j'ai un problème et tout, je sais pas.
Corinne, vous prenez une contraception ou pas ?
Non, je n'ai jamais pris ça.
Docteur Christian Jamin.
Alors, oui, ça ressemble à un ovaire polykystique. Alors, définir un ovaire polykystique, c'est compliqué, parce que si on considère la population française, il y a entre 5 et 30% des femmes qui sont considérées comme ayant un ovaire polykystique, ce qui veut bien dire que la définition est très floue, puisque en fonction des critères qu'on choisit... Alors, le premier critère, c'est effectivement d'avoir des règles irrégulières, et puis souvent associé à de l'acné ou à des poils qui poussent. C'est lié, on ne sait pas à quoi c'est lié, mais on sait qu'il y a un problème avec l'insuline dans cette maladie. C'est souvent lié à ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Et le traitement, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est de perdre du poids et de faire du sport. Parce que plus on est musclé, moins on a d'insuline, et moins on a d'insuline, mieux la fertilité reprend et mieux les règles reviennent.
Est-ce que ça veut dire que ça concerne surtout les personnes en surpoids, docteur ?
Ça concerne beaucoup. Alors, il y a des femmes qui ont un poids normal et qui ont un ovaire polykystique, mais principalement, c'est des femmes en surpoids. Et donc, le traitement de fond, eh bien, c'est d'essayer de perdre du poids et surtout de faire du sport pour être davantage musclé. Et donc, effectivement, souvent, ces ovaires polykystiques s'améliorent après les grossesses. Et c'est le cas de Corinne, si j'ai bien entendu. Donc, effectivement, la pilule améliore l'ovaire polykystique. et la grossesse aussi. Donc, hygiène de vie, et puis, quand c'est nécessaire, pilule pour empêcher l'acné et les poils de pousser.
Corinne, est-ce que vous faites de l'activité physique aujourd'hui?
J'ai commencé tout récemment, mais moi, je suis pas du poids, je suis fine.
Vous êtes fine, vous êtes de physiologie
oui.
fine.
Donc ça, c'est il y a des ovaires polykystiques chez des femmes fines, mais c'est possible. C'est pas toujours le cas d'être en surpoids.
Mais même quand on n'est pas en surpoids, faire de l'activité physique, c'est de toute façon très bon.
De toute façon, c'est bon pour la santé.
Voilà. Eh bien, Corinne, voilà pour cette réponse. On vous souhaite une excellente journée à Douala, au Cameroun. On va rester au Cameroun. On part pour Bakoussam rejoindre Joanne. Joanne est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Allez-y, le docteur Jamin est à votre écoute.
Bon, moi, mon problème, ce sont les adélètes parce que j'ai deux enfants. Et après mon deuxième accouchement, j'ai mis les adélètes parce que je ne voulais pas avoir un troisième enfant très tôt.
Vous avez mis un implant contraceptif, hein, c'est ça, sous-cutané?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
J'ai mis ça pendant deux ans. Durant ces deux ans-là, je n'ai pas eu de saignement, donc je ne saignais plus.
Oui, mais ça correspond.
Oui, ça.
Mais là, c'est normal. Ce n'est pas inquiétant du tout. Parce que c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire ce petit implant, c'est ce qu'on appelle un progestatif, ça empêche la couche qui est à l'intérieur de l'utérus de pousser. Donc, c'est normal de ne pas avoir de saignement. Et en tout cas, ça n'est pas le signe d'une maladie. Hein. Dès qu'on enlève l'implant, les règles reviennent.
Et Joanne, maintenant, vous avez un projet d'enfant, c'est ça?
Oui. Et maintenant, j'ai un projet d'enfant. Et mon problème est que j'ai les règles maintenant deux fois par mois. Est-ce que c'est normal?
Ah non, ça, c'est pas normal d'avoir ces règles deux fois par mois, mais là, le diagnostic par
téléphone,
c'est un peu compliqué.
Il faut aller voir un gynécologue pour
faire un examen pour voir s'il n'y a pas un fibrome, un polype ou quelque chose comme ça. Mais ça n'est pas lié au fait que vous ayez porté un implant.
Mais par contre, docteur, après le retrait de l'implant, le cycle va se régulariser assez rapidement?
Oui, le cycle revient très rapidement, sauf que quand on a pris la pilule, quand on a eu un implant, en fait, il a pu se passer des choses dans son corps qu'on n'a pas vu venir, puisque on avait quelque chose ou qui régularisait artificiellement les règles, ça s'appelle la pilule, ou qui bloquait les règles, comme l'implant, par exemple, ou certains stérilets. Donc, il peut nous être arrivé quelque chose pendant ces périodes-là, on n'a rien vu, puisqu'on avait un cycle artificiel ou pas de cycle du tout. Et quand on arrête la pilule ou l'implant, eh bien, on révèle ce qui s'était passé pendant cette période.
Donc là, le conseil à donner à Joanne, justement, par rapport à toutes ces questions, c'est vraiment d'aller voir un gynéco et faire au moins une visite de bilan.
Oui, parce que, encore une fois, le fait d'avoir porté un implant ne peut pas expliquer cette anomalie du cycle qui est apparue quand on l'a enlevé.
Quand elle dit deux fois par mois, on ne peut pas avoir un cycle réduit à 15 jours.
Si, ça existe, mais en général, c'est beaucoup plus tard chez la femme.
Il y a une explication. Voilà pour Joanne, pour cette réponse. On va partir pour le Gabon à présent. Libreville, c'est Marie qui est en ligne avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour, Clorité Santé.
On est à votre écoute, le docteur Jamin est là pour vous répondre. Allez-y.
Ok, ma préoccupation, c'est au niveau des fibromes. J'ai 48 ans et j'ai les fibromes depuis près de 15 ans. Donc, et il a été découvert après une interruption de 3 mois de grossesse. Et puis, dès qu'on a découvert, on me les a enlevés. Donc, et puis, depuis qu'on me les a enlevés, il n'y a plus de soucis. Mais il y a sept ans, huit ans, je vais dire. Et après la visite chez le médecin, on m'a constaté que les fibromes sont revenus. Et depuis, je vis avec ces fibromes. Et de temps en temps, tous les mois, je prends des calmants pour la douleur. Et je saignais normalement. Mais mon souci, c'est que depuis près de 3 ans maintenant là, je saigne abondamment. Je saigne abondamment et des douleurs qui persistent aussi.
Et vous avez...
Je suis allée voir...
Oui, justement, vous avez consulté.
Pardon?
Qu'est-ce que vous ont dit les médecins?
Le médecin, il a constaté, les fibromes ont augmenté. parce que j'avais quelques fibromes seulement. Mais depuis la dernière consultation, il y avait plus de fibromes.
Donc. Et aujourd'hui, Marie, vous souhaitez vous faire opérer? Qu'est-ce que vous voulez?
Oui, je suis allée voir le médecin parce que beaucoup de douleurs, beaucoup de saignements. J'ai voulu qu'il m'enlève l'utérus directement. Mais le médecin, il m'a déconseillé. Il m'a dit non, avec mon âge, je ne dois pas enlever tout l'utérus. Je suis proche de la ménopause et si on m'enlève l'utérus, j'aurai un peu plus de conséquences. Dans ma question actuellement,
oui, allez-y.
C'est de savoir si les fibromes peuvent retarder l'âge de ménopause. Et la deuxième question, c'est de savoir si quand on enlève l'utérus, quelles sont les conséquences liées à cet état?
Docteur,
par rapport à mon âge.
Docteur Christian Jamin, ses réponses.
Alors, les réponses. D'abord, un fibrome, qu'est-ce que c'est? Un fibrome, c'est une tumeur bénigne du muscle utérin.
Faut le dire bénigne, parce que quand on entend tumeur, ça fait peur. Oui. Non,
c'est
là, ça veut dire que c'est une grosseur.
C'est une grosseur, c'est une grosseur de chair, mais c'est bénin. Mm-hmm. Ça n'est pas un cancer et ça n'a pas les conséquences d'un cancer. Et il y a deux types de fibromes. Il y a les fibromes qui se développent à l'extérieur de l'utérus, et qui peuvent être gênants quand ils sont très gros parce que ça prend de la place dans le ventre. Et puis, il y a les fibromes qui se développent vers l'intérieur de l'utérus. Et ceux-là, ils font saigner. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de traitements et on est obligé de les enlever. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de race noire ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de fibromes. Et c'est extrêmement fréquent. Et malheureusement, quand on les enlève, eh bien, ils ont tendance à revenir. Alors, pour répondre à votre question, oui, si vous avez eu votre projet d'enfant, enlever l'utérus, ça n'a pas beaucoup de conséquences, parce qu'on laisse en place les ovaires. Mais votre médecin a raison. Si vous avez 48 ans, on peut peut-être essayer de tenir jusqu'à la ménopause, parce que ça va guérir tout seul. Donc, et là, c'est difficile de savoir. Donc, si vraiment vous êtes gêné, je pense que c'est vous qui avez raison. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Et le mieux, c'est d'enlever l'utérus en laissant les ovaires.
Voilà donc pour cette réponse, Marie. On vous souhaite une très très bonne journée à Libreville, au Gabon. Est-ce que vous avez une question supplémentaire, peut-être?
Oui.
Allez-y.
Je voudrais savoir si, en enlevant l'utérus et le fonctionnement des ovaires, est-ce qu'il y aura une conséquence sur le fonctionnement des ovaires? Parce que c'est ce que le médecin me l'a dit.
Non, alors, d'une manière générale, si on laisse les ovaires en place, le fait d'enlever l'utérus ne change rien au fonctionnement des ovaires. Et donc, ce qu'on appelle la ménopause, c'est pas l'arrêt des règles, c'est la disparition du fonctionnement des ovaires. Donc, si on peut très bien enlever l'utérus avec des ovaires qui continuent à fonctionner, et donc, il n'y a pas de problème particulier. Le seul problème, c'est qu'on ne peut plus avoir d'enfant.
Voilà. Vous n'aviez plus de projet d'enfant, Marie?
Oui, est-ce que il n'y aura pas d'influence sur les désirs sexuels, s'il vous plaît?
Non, pas du tout. Au contraire, on a démontré que quand les femmes saignaient, étaient embêtées par des fibromes, elles étaient bien libérées quand on les avait débarrassées de leurs fibromes et que la sexualité était plutôt augmentée que diminuée.
Et surtout avec ces douleurs permanentes.
Voilà.
Voilà, Marie, excellente journée pour vous à Libreville. On va partir pour le Tchad avec un auditeur. Un auditeur, c'est Abdelkrim qui est à N'Djamena et qui a une question à vous poser, docteur Christian Jamin. Bonjour Abdelkrim.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour.
En fait, ma question est de savoir, les mycoplasmes et les chlamydia sont des infections sexuellement transmissibles. Ce sont des infections qui sont silencieuses.
Alors.
Et du coup, j'ai une cousine qui a contracté ces deux infections à la fois. Et elle fait face à un échec de l'antibiothérapie, c'est-à-dire qu'elle développe une résistance aux antibiotiques qui sont dirigés contre ces deux IST. J'aimerais savoir quelle sont la solution.
Abdelkrim, je vais tout de suite donner la parole au docteur Christian Jamin. J'ai juste cette question. Votre cousine a pris des antibiotiques après être allée voir un médecin ou elle s'est procurée elle-même ces antibiotiques?
Bon, elle a fait plusieurs consultations.
Oui.
Ils n'ont pas bien diagnostiqué l'infection en tant que telle.
Mais ce sont eux qui ont donné les ordonnances d'antibiotiques, les médecins?
Oui, des antibiotiques des médecins. Après, du coup, elle a vu un autre spécialiste, un gynécologue.
Oui.
Il a recommandé de faire ces deux examens.
Oui.
Et elle fait une résistance à ces antibiotiques.
D'accord.
J'aimerais savoir quelle est là ou les solutions qu'elle peut avoir.
Docteur Christian Jamin.
Alors, chlamydia et mycoplasme, c'est pas du tout la même chose. Chlamydia, c'est une infection, c'est sûr. Il faut la traiter, c'est sûr. Le mycoplasme, c'est un déséquilibre de la flore. Ça n'est pas une infection. Donc, effectivement, les mycoplasmes, si on les traite, ils reviennent tout le temps parce que c'est l'équilibre personnel de la personne qui font que ça a tendance à se développer. Donc, il faut pas, surtout pas prendre d'antibiotiques quand on a un mycoplasme. En revanche, quand on a un chlamydia, oui, il faut prendre un antibiotique et parce que le chlamydia peut, lui, avoir des conséquences sur la fertilité. Donc, encore une fois, si l'antibiotique n'a pas marché, pour peu que ça ait été le bon, c'est plus probablement un mycoplasme, donc un déséquilibre de la flore, et c'est probablement là l'échec, puisque, encore une fois, ça n'est pas une infection sexuellement transmissible.
C'est bien la distinction que vous faisiez tout à l'heure entre les différentes pathologies. Voilà pour cette réponse, Abdelkrim. Bonne journée à Djamena. On va prendre un dernier auditeur qui appelle du Cameroun, de Maroua, c'est Barthélémy. Barthélémy, à vous la parole, bonjour.
Oui, allô, bonjour Madame Caroline, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, on vous écoute, allez-y.
Ok, mon problème se situe, bon, j'avais une petite copine qui m'avait informé qu'elle est un peu infectée du VIH.
Mm-hmm.
Et bon, du coup, notre relation a duré, on a fait 3 ans.
Mm-hmm.
Et bon, comme vous savez, l'amour, on a fait des relations sexuelles avec elle. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend bien. Vous avez eu des relations avec votre ami, oui.
Rapport sexuel.
Mm-hmm.
Ouais, j'ai fait les deux premiers coups, je me suis préservé, on a fait avec la capote, et puis le troisième coup, j'ai pas pu faire avec la capote. C'est pour cela, il me reste à voir quelle réaction qui va se passer. Bon, j'ai fait 2 fois le texte, il y a rien qui n'est affiché.
Quand est-ce que vous avez fait ce dépistage, Barthélémy?
Bon, j'ai fait 3 mois après, et puis j'ai fait 3 mois encore.
Et ça fait combien de temps que vous avez eu cette relation? Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cet ami?
Bon, nous sommes toujours ensemble, mais pas de rapport sexuel.
Mais plus de rapport sexuel. Mais en tout cas, donc il y a eu certains rapports sans préservatif et vous étiez inquiet par rapport à votre statut sérologique pour savoir s'il y avait eu une transmission du virus. C'est bien ça votre question?
Oui, c'est ça, madame.
Alors, si Barthélémy s'est fait dépister 2 fois, docteur Christian Jamin, est-ce qu'il peut être rassuré aujourd'hui?
Pour peu que ce soit à distance, oui, on peut être rassuré. C'est-à-dire que il faut évidemment se protéger, mais on n'attrape pas le sida à chaque fois. Dieu merci.
Mais il y a une question très importante, Barthélémy. Est-ce que votre amie est sous traitement antirétroviraux? Est-ce qu'elle
prend des
médicaments? Donc, elle a peut-être une charge virale indétectable qui explique.
En tout cas, si vos tests sont négatifs, normalement, vous pouvez être tranquille, mais il faut se protéger impérativement, hein, à chaque fois. Mais encore une fois, c'est tout à fait classique qu'on peut avoir des rapports et passer entre les gouttes un certain nombre de fois, mais il faut pas tenter le diable et il faut bien vous protéger à chaque fois. Mais si vous avez fait les tests à distance de votre rapport sexuel, eh bien, et qu'il est négatif, c'est que...
Aujourd'hui, vous pouvez être rassuré.
Vous pouvez être tranquille.
Sur votre état de santé. En tout cas, vous disiez, on est dans le feu de l'action. Mais le conseil que vous donne, bien sûr, le docteur est priorité santé. C'est que même dans le feu de l'action, eh bien, on pense à sa vie. Et c'est très important. Hein, Barthélémy?
Ok, merci, c'est compris, madame.
Merci. Au revoir et très, très bonne journée. On poursuit notre échange, docteur Christian Jamin, question gynécologique aujourd'hui dans Priorité Santé. Et puis un petit détour par l'actualité de ce qui se passe en France, avec justement la prévention d'une maladie bien particulière et d'un virus bien particulier, papillomavirus, ce virus qui est responsable de cancer. On pense souvent à celui du col de l'utérus, hein, mais ce n'est pas le seul. Et puis en France, donc, le vaccin est désormais recommandé non seulement pour les filles, les ados, les adolescentes ou les jeunes femmes, mais aussi pour les garçons. Recommandation très récente, hein, 16 décembre seulement, de la Haute Autorité de Santé. Docteur Christian Jamin, c'est une bonne chose, cette extension?
J'allais dire enfin. Enfin, j'ai écrit un article il y a pas longtemps là-dessus en disant mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'on sait très bien que le vaccin, c'est fait pour se protéger d'une maladie, mais c'est aussi pour empêcher ce qu'on appelle la circulation de la maladie. C'est-à-dire que tout le monde sait depuis longtemps que quand on vaccine juste les gens à risque, eh bien, la maladie continue à circuler. Et donc, c'est une faute de raisonnement qui est ancienne. Et donc, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne et dans de nombreux pays, on vaccine les garçons pour deux raisons. C'est que on a appris depuis que ce fameux virus ne donnait pas que le cancer du col, mais par exemple aux États-Unis, il y a plus de cancers de l'amygdale du fait des relations bucco-génitales liées au virus HPV que de cancers du col, et il y a quelques cancers de l'anus qui sont liés à la même chose. Donc, il faut vacciner les garçons, un, pour protéger les garçons de la maladie, mais surtout parce que on empêche la circulation du virus si on vaccine une partie plus importante de la population. Et donc, le fait de vacciner les garçons va ralentir la circulation du virus. Et on pense que, par exemple, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, les calculs montrent que la maladie va disparaître parce que les femmes sont vaccinées et les hommes sont vaccinés. Et on en est très très loin en France. On est à environ 20% de femmes seulement vaccinées en France, ce qui est totalement insuffisant. Et donc je compte beaucoup, moi, sur le fait de vacciner les garçons. Et j'avais encore une fois plaidé dans ce sens. Et je suis ravi que Madame le ministre nous ait entendu.
Et même d'un point de vue d'égalité stricte, ce n'est pas toujours aux filles de faire peser sur les filles qu'on doit faire peser. La contraception, c'est déjà essentiellement féminin. Cette prévention, ça doit être partagé entre les filles et les garçons. C'est aussi un principe d'égalité.
Tout à fait, tout à fait. C'est efficace pour empêcher la maladie en général, chez les garçons et chez les filles, et
puisque
pour
tout le monde
diminuer
est concerné.
L'épidémie.
Voilà, docteur Christian Germain. On va tout de suite, si vous le voulez bien, partir pour la Côte d'Ivoire.
RFI.
Avec en ligne le docteur Germaine Moquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne au centre de santé urbain Rivière-à-Palmeraie dans le quartier de Cocody à Abidjan. Alors, on a entendu tout à l'heure les questions très nombreuses des auditrices, de quelques auditeurs aussi, avec ces fameux motifs de consultation. On voit la variété des questions, docteur Moquet. Et chez vous, pourquoi les femmes viennent-elles en consultation?
Il faut dire que les femmes viennent en consultation le plus souvent pour les troubles des règles. C'est-à-dire elles ont les règles irrégulières ou bien elles saignent abondamment et aussi pour des infertilités. Donc c'est surtout les troubles des règles qui sont la pathologie la plus fréquente au cours de nos consultations.
Est-ce qu'elles viennent vous voir directement, docteur Moquet, ou elles sont référées, par exemple, par une sage-femme, par une infirmière ou un généraliste?
La majorité du temps, elles sont référées et elles viennent avec des échographies, comme le docteur Jamel a dit, des échographies qui révèlent des ovaires polykystiques. Et puis, presque toutes les échographies révèlent des ovaires polykystiques chez ces femmes-là. Mais la plupart du temps, elles viennent parce que celles qui viennent d'elles-mêmes, c'est parce qu'elles ont soit les troubles, deux fois les règles dans le mois, et souvent, elles ne connaissent pas la physiologie des règles. Donc, elles n'ont pas d'informations là-dessus, donc ce qui fait qu'elles viennent consulter.
Est-ce que vous regrettez, du coup, comme elles sont déjà passées par plusieurs étapes parfois avec tous ces examens, est-ce que vous regrettez des consultations un petit peu tardives?
Bien sûr, effectivement, mais on regarde les consultations tardives parce que des fois, elles vont dans les officines privées pour prendre les traitements, pour se faire soigner. Et lorsque ça s'aggrave, lorsqu'elles ont des saignements abondants qui ne s'arrêtent pas, c'est là qu'elles sont référées chez le gynécologue. Et franchement, on les informe que c'est tard. Elles auraient dû venir au début voir le médecin gynécologue pour qu'on puisse les prendre en charge rapidement.
Un retard et puis aussi parfois des problèmes, docteur Germaine Moquet, c'est ce que vous constatez parce que il y a beaucoup d'automédication quand c'est la santé des femmes, des espèces, nous on dit des trucs de grand-mère, mais il y a aussi ces conseils qui se donnent de tante à mère, à grand-mère à fille, et parfois un petit peu n'importe quoi.
C'est ça justement, c'est l'automédication surtout qui prime. Parce que, bon, lorsqu'elles ont soit les règles douloureuses, les douleurs au cours des règles, elles se disent qu'il n'y a pas, les grands-mères disent qu'il n'y a pas de traitement médical. Donc, elles s'en vont traiter avec les feuilles et les sucures. Et après, maintenant, ça s'aggrave. Et c'est ainsi qu'après, elles se réfèrent au gynécologue pour avoir un traitement. Et cela est très fréquent chez nous, plutôt. La tradition dit qu'il n'y a pas de traitement des règles douloureuses sur le plan médical. Ils disent qu'il n'y a pas de traitement. Donc, elles se réfèrent vers les traitements traditionnels des grands-mères, des mères, et puis bon, après, ça aggrave leur état et s'entraînent. La plupart du temps, elles ont des infections qui entraînent des problèmes d'infertilité à la longue. Et c'est ce qui les emmène en consultation.
Avec un certain nombre de problèmes, docteur Moquet, tout à l'heure vous parliez des questions posées sur les règles, mais aussi parfois simplement la méconnaissance du corps, de la physiologie féminine.
Justement, la méconnaissance, la preuve, il y a certains coutumes même qui se disent qu'à la ménopause, la femme ne doit plus avoir de rapport sexuel parce que bon, lorsqu'elle a les règles, elle évacue le sperme. Qu'elle a consenti au cours des rapports, et si elle est ménopausée, elle ne doit plus avoir de rapports sexuels, parce qu'elle n'a plus les règles pour évacuer le sperme qu'elle accumule. Et donc, vous voyez, c'est la méconnaissance. Donc, il faudrait qu'on leur explique la partie, parce qu'au cours de ma consultation, j'en ai rencontré beaucoup de femmes ménopausées qui n'ont plus de rapports sexuels. Et je leur demande, mais pourquoi? Elles disent non, parce que je n'ai plus de règles. Si, étant donné, si je fais les rapports, mais le sperme va s'accumuler dans mon corps et je serai malade. Vous voyez, l'ignorance, parce qu'elles ne connaissent pas la physiologie des reins. Donc, il faudrait qu'on leur donne des informations. Quand je leur donne des informations, elles se disent, mais c'est pas possible. Donc, vous voyez, il y a l'ignorance et puis la physiologie des reins.
Alors, ça peut être sur l'ancienne génération, mais quand on est une jeune fille aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qu'on a des questions sur sa santé sexuelle, docteur Germaine Moquet, pas toujours facile d'aller voir un gynéco, hein, il n'y en a pas énormément non plus. On se tourne vers qui?
Justement, c'est pas facile, mais on a les centres de santé partout. Hein. Et maintenant, au niveau des écoles, on a les centres de santé scolaires, et les médecins leur expliquent tout le cycle masculin. Mais il faut dire que, il y a une fois, les troubles, elles ne connaissent pas trop la durée du cycle mensuel. Lorsqu'elles ont un cycle court, que les règles viennent deux fois dans le mois, et un cycle court, c'est un cycle de 21 jours. Mm-hmm. Donc, tu peux avoir les règles soit le premier jour du mois, et puis le 22 du mois, avoir les règles. Et lorsqu'elles ont deux fois les règles dans le mois, elles se disent que non, je suis malade, c'est une pathologie, et deux fois, ça les emmène à consulter. Et donc, tout cela est dû à un manque d'informations. Il n'y a pas les informations sur la durée du cycle mensuel et sur les périodes ovulatoires. Et donc, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui prennent les contraceptifs de la pilule du lendemain. Elles peuvent prendre la pilule du lendemain deux fois dans le mois. Parce qu'elles se disent que, bon, mais j'ai eu les rapports, donc c'est une période hors. C'est pas normal et cela entraîne aussi des troubles du cycle. Lorsque tu prends les pilules, ça entraîne des troubles du cycle.
Donc on a bien compris, mieux informer, mieux sensibiliser justement sur toutes ces questions, c'est essentiel. Merci à vous, docteur Germaine Moquet. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à Abidjan.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On approche de la fin de notre échange, docteur Christian Jamin. Ce qu'on a entendu avec le docteur Moquet, par exemple, cette automédication, est-ce que c'est quelque chose aussi, vous, en consultation à Paris, quelque chose contre laquelle vous luttez?
Oui, enfin, il y a encore pas mal d'automédication, mais c'est vrai qu'à Paris, c'est quand même assez facile d'avoir accès à un médecin généraliste.
Même si les choses changent, on souligne souvent qu'en France, on a vraiment beaucoup de gynécos et un accès à la santé féminine.
Donc, de ce côté-là, on est quand même assez bien lotis, d'autant que, comme je le disais, il y a aussi les médecins généralistes et aussi les sages-femmes qui s'occupent bien des femmes. Donc, d'une manière générale, on peut aller facilement voir un médecin spécialisé.
Toutes ces questions de santé féminine, c'est aussi une question d'éducation tout simplement, aussi de transmission mère-fille. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les choses ont résolument changé, docteur Christian Jamin? On entend souvent quand on va à la rencontre de nos auditeurs eh bien, que certaines jeunes filles découvrent leurs règles, notamment en Afrique subsaharienne, eh bien, le jour où elles surviennent. Est-ce que c'est encore des choses qui existent en France ou vraiment aujourd'hui les choses ont changé?
Alors, bien sûr que les choses ont changé, mais quand les mamans ne sont pas bien informées, par définition, les filles ne le seront pas. Et moi, je regrette beaucoup si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien en France, c'est l'éducation à l'école par rapport à tout ça, parce que c'est tabou.
Parce qu'on confond l'éducation sexuelle avec l'éducation à la santé.
Exactement. Et puis, il y a des familles ou des religions dans lesquelles on ne veut pas entendre parler de ça. Et donc, il y a des professeurs même qui ne peuvent pas faire le cours parce que il y a certains parents qui s'y opposent. Et donc, il y a un vrai problème, c'est que l'école ne remplit pas son rôle dans ce domaine, même parfois malgré la bonne volonté des enseignants, parce que ils sont gênés par les croyances des élèves ou les parents des élèves.
Alors, il y a une question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne en conclusion. Ce sont les infections sexuellement transmissibles. Vous nous avez dressé tout à l'heure un tableau assez clair, mais encore une fois, docteur Christian Jamin, bien insisté, pas d'automédication quand on a un soupçon d'IST. Hein. C'est bien précis, le traitement est précis et pointu.
Alors, absolument. C'est-à-dire que même en France, maintenant, on en est au dépistage systématique de ces infections. Et là encore, c'est assez nouveau. Notre ministre a insisté sur le fait que toute personne qui a eu un rapport non protégé dans l'année avec quelqu'un qui n'est pas son partenaire habituel, maintenant, doit bénéficier, quasiment quel que soit son âge, d'un dépistage de ces infections sexuelles.
Sur quelle maladie ça porte précisément? Chlamydia?
Principalement le chlamydia, parce que le gonocoque, on s'en aperçoit. Mais le chlamydia, on s'en aperçoit pas. Et donc, chez les femmes jeunes, c'est quasiment systématique régulièrement. Et chez les femmes moins jeunes, on doit le faire quand on a eu un comportement à risque.
Parce qu'on a vu aussi des statistiques absolument édifiantes sur les jeunes et ces IST, avec un grand degré même de méconnaissance et aussi un réflexe de protection bien inférieur par rapport à la génération précédente qui avait des craintes par rapport au VIH.
Absolument. Et encore une fois, ces infections sont souvent silencieuses. Et donc, il faut pas croire qu'on va s'en apercevoir. Et elles ne font qu'augmenter. Là, ça, c'est un vrai problème. On assiste à une épidémie d'infections chlamydia actuellement parce qu'on ne se protège pas assez et on n'est pas assez dépisté.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à toutes ces questions d'auditrice dans Priorité Santé, docteur Christian Jamin, gynécologue endocrinologue à Paris. Manque criant de moyens médicaux, crise sécuritaire, crise économique, politique, tension sociale en Haïti et Médecins sans frontières qui vient de reprendre ses activités au sein de l'hôpital à Tabar, une structure qui prend en charge en particulier les blessures traumatiques. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Fabrice Pietri. Bonjour Jean-Fabrice Pietri.
Oui, bonjour.
Vous êtes coordinateur de ce projet MSF dans cette commune de la capitale haïtienne. Nous avons enregistré cet entretien. Une première question très simple, Jean-Fabrice Pietri. Quand cette structure de MSF a-t-elle ouvert?
Alors, nous avons ouvert le 25 novembre. Nous pensions démarrer progressivement avec une structure de 25, une capacité de 25 lits. Et puis, très rapidement, en fait, nous avons reçu un nombre important de patients, ce qui fait qu'on pensait augmenter 25 lits, puis passer à 50 lits au bout d'un mois. Et ce qui devait se faire en quelques semaines va se faire, en fait, en quelques jours. Et je pense que d'ici la fin de semaine, nous serons à capacité maximum de 50 lits.
Alors, tout à l'heure, je disais blessure traumatique. Est-ce que vous pouvez nous décrire le type de cas que vous prenez en charge à Tabar?
On va prendre en charge tout ce qui est cas de traumatologie orthopédique et viscéraux, tous les cas les plus graves, tout ce qui est fracture ouverte, plaie par balle, plaie par arme blanche, enfin tout ce qui est en fait urgence vitale.
Est-ce que vous diriez justement que ces cas que vous prenez en charge sont directement liés à la crise actuelle qui se traduit également par un certain nombre de situations de violence?
Écoutez, pour vous donner une indication, 60% des cas que nous avons admis depuis l'ouverture, donc maintenant 3 semaines, 60% de ces cas sont des blessures par balle. Donc j'imagine que cela dit quelque chose sur le niveau de violence et d'insécurité du pays, oui, très clairement.
Alors cela se traduit, j'imagine, Jean-Fabrice Pietri, par un certain nombre d'opérations chirurgicales. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut, notamment en termes de transfusion sanguine ?
Oui, oui, nous mettons en place une banque du sang. Donc en termes de plateau technique et de capacité à intervenir sur les cas que nous recevons, nous sommes prêts. La question, c'est que nous voyons la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que nous prenons les cas les plus graves. Ça veut dire que s'il n'y a pas en amont une structure sanitaire nationale qui prend en charge, j'aurais tendance à dire le tout venant, bon, très vite nous allons arriver à saturation. Et tout le problème aujourd'hui, c'est de savoir si les capacités sanitaires de Port-au-Prince en particulier et d'Haïti en général sont en capacité aujourd'hui de jouer son rôle de façon à ce que tout ne devienne pas une situation grave et nous arrive à nous, MSF.
Avec en plus des blocages récurrents de la circulation routière, hein, on parle de ces échanges de coups de feu, des manifestations, des barrages, parfois des pneus qui brûlent. Jean-Fabrice Pietri, on peut imaginer que cela nuit considérablement à la qualité de la prise en charge.
Alors c'est clair que pays bloqué, évidemment, ne facilite pas les choses en termes de logistique. Pour autant, l'image de MSF dans le pays fait que nous, on passe des barrages jusqu'ici, sans difficulté, et nos véhicules, quand on arrive au barrage, on nous laisse passer, on est identifié de façon assez positive, donc on arrive encore à passer. Mais c'est clair que ça crée une difficulté supplémentaire dans la mise en place de nos opérations, oui, ça c'est sûr.
En tout cas, vous constatez que la perception de vos équipes se passe plutôt bien donc en Haïti. Malgré tout, est-ce que les personnels et même parfois les patients, hein, quand ils sont transportés, est-ce que ces personnes se plaignent de réels problèmes de sécurité ?
Oui, c'est un vrai sujet pour nos personnels, pour nos patients. Pour se rendre à l'hôpital, on peut avoir du personnel qui sont victimes de tentatives de vol, de kidnapping. Donc ça, c'est un sujet. On est dans une situation où l'insécurité est un problème majeur sur Port-au-Prince, très clairement. Ça complique un peu les choses, oui, c'est vrai.
Quand on rouvre une structure comme celle de Tabar, hein, donc on l'a compris depuis novembre dernier, est-ce que l'on sait pour combien de temps ?
Très clairement, on s'inscrit dans la durée. Je ne peux pas prévenir l'avenir, évidemment, mais on s'est clairement mis en position de pouvoir répondre à une détérioration sévère de la situation. Et de toute façon, on s'inscrit quand on remonte à un hôpital, ce n'est pas pour 6 mois, hein, donc c'est pour plusieurs années.
Coup de projecteur donc sur ce site de Tabar, Jean-Fabrice Pietri, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les autres structures de soins que gère Médecins Sans Frontières sur le territoire haïtien ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces autres sites ?
Alors, pour Médecins Sans Frontières France, en fait, on a 2 hôpitaux. Donc, bien sûr, l'hôpital de Tabar qui sera dédié à tout ce qui est traumato. Et puis, nous avons l'hôpital de Drouillard qui, lui, est dédié à tout ce qui est brûlure, grand brûlé. Donc, on prend en charge tout ce qui est en rapport avec les questions d'accidents liés à des brûlures. Ce sont les deux structures. Il y a une autre structure encore qui est à Martissan, qui est un service des urgences avec lequel, évidemment, l'hôpital de Tabar travaille en étroite collaboration et qui nous transfère les cas les plus graves.
Merci beaucoup, hein, Jean-Fabrice Pietri, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes coordinateur de projet MSF à Tabar en Haïti. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique et la réalise. Demain, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée à l'épilepsie, faire face à cette maladie neurologique au quotidien. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards de voix.